au Capi Action.
C'est malheureux, c'est un sabotage. Donc ça devient une tricherie, ça devient une corruption.
Des conseils pratiques, des solutions à vos préoccupations.
Ils ont des moyens très limités.
En tout cas, c'est spécial.
Non, le problème ne réside pas à ce niveau-là, madame. Mademoiselle.
Au Capi Action, du lundi au vendredi de 9h à 11h, heure de Kinshasa, avec J.R. Lungembo.
Le coupage ne doit pas être considéré comme un mode de rémunération normal. Ce ne sont pas mes propos, c'est la conclusion, et c'est plutôt la conclusion de l'ouvrage publié récemment par le groupe de recherche et d'échange technologique, en collaboration bien entendu avec certains professionnels de médias. Nous abordons cette question avec notre consoeur Nounungoy qui s'est penché largement sur la chose et nous allons éclairer tous notre lanterne. Voilà. Bonjour Nounou.
Bonjour JR, bonjour à tous ceux qui nous suivent.
Alors nous parlons du coupage, mais je parie que beaucoup de personnes ne savent pas de quoi il s'agit. Ce serait bien de l'expliquer, c'est quoi le coupage?
Bien JR, le coupage c'est une collation qui n'est pas du tout obligatoire qu'un organisateur d'une manifestation remet à un journaliste après le reportage ou après l'interview que ce dernier lui accorde.
En termes simples, donc ça peut être
de l'argent.
Transport, de l'argent, donc un transport et puis voilà. Même un cadeau présent. Alors, et pourquoi aujourd'hui des voix s'élèvent pour mettre fin à cette pratique?
JR, parce que ceux qui dénoncent cette pratique, notamment le GRET, l'OMEC, les éminents professeurs de l'IFASIC et de l'UNIKIN, pour ne citer que cela, estiment que le coupage manipule l'information. Pour eux, le journaliste coupé devient complaisant vis-à-vis de son coupeur. Et bien entendu, il n'est plus totalement objectif dans le traitement de l'information pour laquelle il a reçu une enveloppe.
Alors, on imagine bien qu'il y a des confrères journalistes qui sont déjà au courant de la publication de cet ouvrage. Avez-vous recueilli quelques réactions?
Oui, mais il faut d'abord préciser, JR, que le GRET n'a pas encore mis officiellement cet ouvrage sur le marché. Mais il y a quand même des confrères qui ont entendu parler de ça, ils ont réagi.
Ils peuvent réfléchir 1000 fois, écrire 1000 ouvrages, mais si on ne résout pas le vrai problème, c'est-à-dire la rémunération des journalistes, les Congolais prennent souvent des dispositions, des résolutions, des bonnes résolutions, mais tant que ces résolutions ne tiennent pas compte de l'environnement, et ne cherchent pas à changer l'environnement pour que les décisions puissent s'appliquer, je regrette, je pense que le livre le plus intéressant pour moi qui a été écrit sur la presse, c'est 20 ans de métier, 20 ans de main tendue. Et c'est cela la réalité de la presse congolaise.
Je n'ai pas eu le temps de parcourir tout l'ouvrage, mais c'est un ouvrage que j'ai trouvé très très intéressant, qui ramasse bien les réalités en ce qui concerne ce phénomène coupage.
Voilà, qui ramasse presque toutes les réalités qui concernent cette pratique de coupage. Alors, ils n'ont pas tort de réagir librement, surtout qu'ils avancent des raisons qui sont valables.
Absolument, JR, beaucoup de confrères journalistes disent qu'ils sont contraints de prendre le coupage car ils sont mal rémunérés. Ils ont pour la plupart des salaires qui sont insignifiants, comme ils le confirment.
S'il faut mettre un point à cette pratique, moi je suis un peu contre puisque les journalistes congolais ne travaillent pas dans des bonnes conditions. La plupart des organes de presse que vous voyez ici à Kinshasa, les journalistes travaillent sans salaire.
C'est nécessaire dans la mesure où on sait que les journalistes ici en RDC sont très mal payés. Donc des fois on est obligé de compenser avec le coupage la plupart du temps.
Tout le monde veut vivre dignement, mais lorsque beaucoup d'organes de presse envoient des journalistes en reportage sans même leur assurer les moyens de transport et qu'il pleuve, qu'il neige, ils doivent se débrouiller pour être là-bas et ramener l'information à temps. Et ils se mettent souvent à la disposition de celui qui donne cette information-là.
Le salaire, il n'est pas consistant. Le journaliste, ce qu'il touche dans les reportages durant tout un mois, ça va même au-delà de son salaire. C'est ce qui fait que la plupart des journalistes préfèrent être tout le temps dans les reportages que d'attendre la fin du mois pour toucher un salaire qui n'est pas consistant du tout.
Un journaliste qui sait par exemple qu'il draine chaque mois 1000 dollars à une maison de presse et à la fin on lui donne 40 dollars comme salaire, comprenez que la tentation est forte d'accepter des libéralités indirectes qu'on appelle ici coupage.
Si on regarde le salaire d'un journaliste, c'est à peine que ça dépasse les 50 dollars. Et quand un journaliste fait des reportages plusieurs fois par jour, le coupage, je peux dire, ça quadruple ou ça triple son salaire. C'est pour cela que les journalistes préfèrent avoir le coupage que d'attendre le salaire à la fin du mois.
Alors nous, on va évoluer. D'abord, je rappelle nos deux numéros pour participer à cette émission. le 081-070-2050 pour les SMS et le 081-890-6394. Si vous nous suivez, n'hésitez pas à nous faire parvenir vos réactions et commentaires. On va poursuivre avec vous. On a comme l'impression que tous les journalistes reconnaissent qu'ils sont mal payés, malgré que certains patrons ont les moyens qu'il faut. Est-ce que vous avez abordé cette question avec les responsables des organes de presse?
Oui, hier, nous avons discuté avec quelques responsables des organes de presse sur ce phénomène coupage. Ils sont tous conscients du problème. Pour Kibambe Chintoi, patron de Tropicana et Numérica, il faut créer des grandes entreprises de presse pour mettre les journalistes à l'abri du coupage. Polydor Mouboyaï, patron du quotidien Le Phare, lui soutient que les efforts sont faits pour mettre les journalistes à l'abri de cette pratique, mais ce sont les moyens qui manquent à plusieurs organes de presse. Suivons donc tour à tour Kibambe Chintoi et Polydor Mouboyaï.
Ce n'est pas en faisant des livres, qu'on ne lit même pas,
qu'on va mettre un terme à ce phénomène malheureux et très controversé par ailleurs. Mais c'est en créant des grandes entreprises de presse dotées de moyens considérables, payant des vrais salaires aux journalistes. À ce moment-là, ils feront comme leurs collègues à travers le monde, qui peuvent à la limite accepter un cadeau plutôt que de rendre obligatoire le coupage avant d'aller faire un papier.
On fait le maximum de ce que l'on peut faire. La plus belle fille du monde ne peut donner que ce qu'elle a. Donc de la même manière, lorsque vous arrivez dans une entreprise de médias, cette entreprise ne peut donner que ce qu'elle a. Donc lorsque vous arrivez chez nous, vous savez que nous avons un certain nombre de petits moyens et ces moyens-là, nous les mettons à la disposition de ceux qui travaillent avec nous.
Les deux responsables reconnaissent certes le problème, mais on a comme l'impression qu'ils sont impuissants, ou pour dire incapables, de pouvoir mettre fin à cette pratique.
Vous savez, JR, ce n'est pas du tout facile de mettre fin à une pratique qui est devenue presque universelle. Et puis, il faut dire que la crise multiforme que connaît notre pays n'arrange pas du tout les choses. Mais malgré tous ces problèmes, Christian Lusakweno, patron de Top Congo, lui propose une piste de solution.
Dire qu'il faut éliminer le coupage, oui. Dire que ce sera facile, non. Mais les pistes existent. En règle générale, que les radios soient associatives, qu'elles soient étatiques ou para-étatiques, qu'elles soient privées vivant de la publicité, il faudra absolument que les professionnels des médias entre eux s'entendent pour fixer des tarifs de publicité uniques, en espérant que les entrepreneurs de ces médias en profiteraient à ce moment-là, le journaliste verrait son salaire augmenter et, quoi que ce soit pas sûr, le coupage disparaîtrait.
Oui, mais en tant que patron, que faites-vous pour mettre vos journalistes à l'abri du coupage?
À Top Congo, nous avons banni le coupage de notre langage. Ce que nous avons fait, nous avons essayé de donner un minimum à nos journalistes. Nous les avons mis sous contrat, nous donnons le transport, nous les avons déclarés à l'INSS, nous payons les soins de santé. Ce n'est certes pas beaucoup, mais je dirais tout simplement, c'est cependant un grand pas.
Voilà, un grand pas. Nous souhaitons que ça soit ainsi presque dans
les années d'après.
Alors, ce n'est pas la première fois qu'on condamne la pratique du coupage, même si le GRET est monté au créneau aujourd'hui. Il y a déjà eu des gens qui ont essayé à leur manière aussi d'en parler avant. Il y a eu des ateliers, soulignons-le, des séminaires et même des thèses, mais il n'y a pas eu de bons résultats. Pourquoi nous?
Il n'y a pas de bons résultats hier parce que beaucoup de journalistes vivent dans la précarité. À ce propos d'ailleurs, le président de l'Observatoire des médias congolais, OMEC, lui rejette la balle au tenant du pouvoir suivant.
Le coupage, qui signifie en fait corruption, ce phénomène-là ne concerne pas que les journalistes. C'est donc un phénomène global. Qu'est-ce qu'il faut pour mettre fin à ce phénomène? Mais il y a d'abord, avant tout, vous savez, c'est d'abord un cadre moral. C'est les valeurs de famille. Quand on éduque un enfant, on l'éduque pour respecter un certain nombre de règles. C'est ne pas voler, ne pas se laisser corrompre, ne pas mentir. Nous disons, il faut un environnement sain. Cela s'adresse, bien entendu, à ceux qui gouvernent. C'est eux qui doivent faire en sorte que, dans la société, les gens apprennent à respecter un certain nombre de règles écrites et non écrites. En deuxième lieu, bien sûr, l'entreprise de presse elle-même, qui doit aussi vivre dans un environnement économique assaini. Le journaliste doit vivre de son métier. Et pour qu'il vive de son métier, il faut que le salaire qu'il reçoit soit conséquent. Mais est-ce que, aujourd'hui, l'environnement économique le permet?
Voilà, il y a une question là. Je crois que notre invité pourrait bien revenir sur cela pour que nous ayons un peu des détails. Nungoy, on peut s'arrêter là pour aujourd'hui. Merci de nous avoir présenté ces grands dossiers et à la prochaine.
Merci, Gire.
Okapi Action. Envoyez vos questions, vos remarques ou encore vos commentaires par SMS au 081 070 20 50. Témoignez directement en composant le 081 890 63 94 ou encore écrivez-nous à l'adresse électronique suivante action@radiookapi.net. Okapi Action, le magazine de la vie au quotidien.
Voilà, nous avons déjà nos deux invités dans ce studio. Il s'agit bien de M. Serge Bailly, représentant de GRECT, groupe de recherche et d'échange technologique et responsable du programme d'appui aux médias congolais. Et puis nous avons aussi déjà également dans ce studio M. Stanislas Kangouidje, secrétaire général du syndicat de la presse congolaise. Je commence par vous, M. Serge, bonjour.
Bonjour.
Et bonjour, monsieur Stanislas.
Oui, bonjour.
Alors, aujourd'hui, nous parlons de cette question sur la pratique du coupage. La première question est d'abord revient à vous, monsieur Serge. C'est quoi le GRET? Qu'est-ce exactement le GRET?
Bon, le GRET est une ONG internationale qui travaille sur un programme d'appui aux médias congolais depuis maintenant 3 ans. Je dis depuis 3 ans parce que j'ai entendu un de vos invités qui a dit que ça n'a pas effectivement une publication qui va modifier le cours des choses, et nous en sommes bien conscients. Cette publication n'est jamais qu'une des étapes du programme sur lequel nous travaillons. Nous avons travaillé, et je pense que le responsable du syndicat pourra en attester, depuis maintenant un certain temps, à la fois avec les représentants des patrons de presse et à la fois avec les représentants des journalistes, le syndicat de la presse. Ce que je peux dire, c'est que nous avons essayé, notamment en 2004 et 2005, de coaliser les représentants des journalistes et les représentants des patrons de presse afin de réfléchir à des pistes de contrat de travail pour les journalistes.
Oui, parce que vous dites que le GRET, disons, est opérationnel. Cela fait exactement 3 ans que vous êtes ici. Mais on a senti comme si vous avez travaillé en silence et maintenant vous venez de vous réveiller de votre sommeil.
Ah non, je pense pas. Écoutez,
donc, la visibilité de l'ONG, on vous sentait pas sur le terrain.
Ah, écoutez, si vous interrogez un certain nombre de journalistes et de la presse écrite et de la radio, plutôt effectivement les radios communautaires, je pense qu'ils connaissent très bien le GRET. Hein. Nous tenons encore ces jours-ci une formation à destination de 15 représentants de radios communautaires. Je pense que nous n'avons pas cherché la visibilité à tout prix, mais les gens qui nous ont vu travailler, nous n'avons pas cherché l'esbrouf, nous n'avons pas cherché nécessairement l'éclat, mais à la fois les associations, l'UNPC, l'OMEC, la Haute Autorité des Médias, le syndicat de la presse savent et nous les avons accompagnés depuis tout ce temps-là.
Je reviendrai à vous. Je prends d'abord quelqu'un qui est en ligne, Moïse Monidela. Je précise qu'il est vice-ministre, l'actuel vice-ministre Information et Presse de la République démocratique du Congo. Bonjour, monsieur Moïse.
Oui, bonjour, monsieur le journaliste.
Alors, nous parlons de cette pratique de coupage qui doit être bannie. Ça, c'est selon, d'après le GRET, le groupe de recherche et d'échange technologique, qui vient de publier un document ou, disons, un ouvrage qui parle de coupage dans la presse congolaise, les pistes pour en sortir. Première question, bannir la pratique du coupage en République démocratique du Congo est-il possible, d'après vous? Ce n'est pas de l'utopie?
Oui, je signale déjà que l'audition n'est pas très très bonne, mais je vais essayer de répondre à votre question. Le problème des coupages, monsieur le journaliste, c'est un épiphénomène. Hein, ce qui peut disparaître si et seulement si on mettait les journalistes congolais dans de bonnes conditions de travail. Et vous mettez les journalistes français dans les conditions de travail que se trouvent aujourd'hui les journalistes congolais, il sera incapable de produire un travail de titan, un travail appréciable. C'est pour cela, au lieu de s'attaquer au problème des coupages, il faut s'attaquer aux conditions du travail du journaliste. Il faut mettre les journalistes congolais dans de bonnes conditions. Il faut que les journalistes congolais puissent avoir un contrat digne d'un travailleur dans une entreprise. Et ça, d'une fois, il est payé, il est bien payé, il sera capable de fournir un travail. Et d'ailleurs, vous, et c'est ici l'occasion de rendre hommage à la presse congolaise qui a accompagné le processus de la transition en douceur jusqu'à l'atterrissage en douceur de cette démocratie. Nous devons aussi à la presse, parce que la presse dans notre pays a non seulement le rôle d'informer, elle a aussi le rôle d'éditer. Et la presse, je pense que la presse dans notre pays, de manière globale, a joué les rôles, a joué un rôle que l'histoire retiendra, que la presse a accompagné d'une manière honorable, d'une manière objective, cette transition.
Oui, mais les conditions d'existence précaires des journalistes, mal payés, expliquent bien cette pratique de coupage, ça fait connu. Mais vous avez dit, il faudrait qu'on mette ces journalistes dans des bonnes conditions. Et quand vous parlez des gens qui doivent mettre les journalistes dans de bonnes conditions, vous faites allusion à qui? Aux gouvernants? Ou carrément
Vous savez que la presse aujourd'hui, et ce n'est pas seulement, il n'y a pas seulement la presse officielle, et je pense des entreprises privées, des presses, qui pilulent notre pays. Et c'est de ça que je parle. Et puis il y a aussi l'État. L'État aussi a un rôle moteur. L'État a un rôle d'impulser, de donner une impulsion. Je pense que l'État va jouer son rôle d'ici là, parce qu'on veut, nous venons d'une transition, ben, laisser le temps au temps. On mettra un gouvernement qui sera à même de penser à tous ces problèmes. Mais s'il n'y a pas seulement la presse, c'est un problème qui ne concerne pas seulement la presse, c'est un problème qui concerne le professeur d'université, le médecin. Donc, et ces problèmes-là, on les trouve partout. Il n'y a pas seulement le problème de la presse qui doit préoccuper les gouvernements, qui nous profite. Et c'est le problème mais comme je suis vice-ministre de la presse, c'est tout à fait normal que je parle des problèmes de la presse. Et donc, la déontologie, l'objectivité, tout ça, c'est bien parler des antivaleurs, mais pour résoudre ces antivaleurs, il faut voir le mal au niveau de la racine. Et la racine du mal, c'est, moi je pense, ici, à ce qui concerne la presse, c'est les conditions de travail de journalistes, en dépit de tout ce qu'on peut dire. Aujourd'hui, il y a quand même quelqu'un qui fait les mille, qui fait la fierté de la presse congolaise, c'est Kassongo Mayamba Yamba, qui est en train de prester à RFI. Il fait un très bon travail, c'est un produit de la presse congolaise. C'est parce qu'il est mis dans de bonnes conditions de travail. Donc voilà, c'est là où moi je pense qu'il faut, il faut déjà penser à la redevance télé, il faut penser à la subvention de la presse, et il faut penser au contrat de travail en bon uniforme. Et voilà, ce sont là des pistes, des solutions.
Oui, ben, vous l'avez si bien dit, M. Moïse, mais quelque part, d'aucuns disent qu'il y a un désordre dans l'espace médiatique. Aujourd'hui, les chaînes de télévision et les chaînes de radio pilulent, échappent éventuellement à votre contrôle, au contrôle du ministère de l'information. Et c'est là aussi la raison qui fait qu'aujourd'hui, tout le monde peut faire n'importe quoi et à n'importe quel moment. Et
on condamne le manque du bon politique. Nous venons d'une transition. La transition, c'est une période charnière. Et bientôt, nous sommes en plein pied dans un état de droit. Et un état de droit, c'est un état où personne n'est au-dessus de la loi. C'est ce que je viens de vous dire. Et donnons le temps au temps. Je pense qu'ici, il faut positiver. Et moi, je ne veux pas voir ce qui n'a pas été bien fait. Je vois ce qui a été bien fait. Et bah, ce qui a été bien fait, je vois l'atterrissage en douceur. C'est quand même un événement, monsieur le journaliste.
Oui, vous parlez, vous
saluez. Et la presse, notre presse a contribuer, à accompagner d'une manière...
Oui, ça on sait, ça on sait, et tout le monde en parle.
Et il faut savoir
que cette presse vit dans...
Il y aura toujours quelque chose à dire, et il n'y a pas l'objectivité, il y a le problème de coupage, il y a... Bon, ça, je sais, monsieur le journaliste, et je vous dis, et les deux ordres, vous venez de dire, c'est un deux ordres par rapport à un contexte, nous venons d'un contexte.
Mais la période dernière, ne voulait pas dire...
qu'il y a la mise en place de l'institution démocratique, un état de droit, je pense que ça va disparaître. Il faut positiver. Moi, je vois l'avenir de notre pays en rose.
Oui, mais la période charnière ne voulait pas dire une période où on allait croiser les bras et ne rien faire. Vous, en tant que ministère des tutelles, est-ce que vous aviez pensé vous avez réfléchi sûrement sur la question. Est-ce que vous avez des plaidoyers à présenter chez qui des droits pour que les solutions puissent être trouvées le plus tôt possible?
Tout à fait. D'ailleurs, je vous informe que d'ailleurs, là, je suis en train de visiter une maison de presse. Donc, je n'ai pas, je n'ai pas dit parce que je dois, nous devons quitter, nous devons rendre l'État libre. On ne doit pas continuer à travailler, on ne doit pas continuer à gérer. L'État congolais doit être géré. Et c'est dans cette ordre que je continue à visiter. Je dois visiter d'ailleurs tout à l'heure, je dois visiter les maisons de presse pour voir si les problèmes, pour essayer un peu de cerner les problèmes qui se posent dans la presse congolaise. Mais c'est pour vous dire que nous prenons à cœur, à bras le corps, ce problème. Nous ne sommes pas en train d'assister comme ça, comme des spectateurs au cours d'un match de foot. Non, nous sommes des acteurs et nous sommes en train d'éveiller, nous sommes en train d'agir. Et vous pouvez nous faire confiance. Moi, je préfère que nous puissions positiver, ou il y ait de continuer à se morfondre et tout ça. Je pense que l'essentiel aujourd'hui, c'est de voir, de fixer les caps, de voir ce qui est bon et d'éviter de revenir toujours à ce qui n'a pas été bien fait. Donc voilà, donc s'il y a un problème, le problème sera résolu. Et croyez-moi, nous sommes conscients des problèmes, mais je risque de me répéter, nous venons d'un contexte. Et ce contexte-là permettait la floraison de la presse. On ne pouvait pas interdire parce qu'on risque d'être traité de partisan, ou risque d'être traité de dictateur ou de quelqu'un qui fait tordre le cou à la presse et à la liberté d'expression. Donc voilà.
Mais votre titulaire est passé une fois sur les ondes des radios Okapi et nous a laissé dire que si jamais un jour il était conduit toujours à la tête de ce ministère, il réduirait l'espace médiatique en 4 chaînes de télévision seulement. Parce que pour lui, pour résoudre ses problèmes, il faut vraiment, vraiment nettoyer l'espace médiatique. Est-ce que vous avez la même réaction que lui?
Oh, ben moi, je ne suis pas là où je ne vais pas polémiquer ou donner l'avis contre eux. Il a donné cet avis-là. Dans quel contexte, dans quelles circonstances, je crois que aujourd'hui, je ne commenterai pas la position du ministre. Je la respecte parce que je crois qu'il a tenu compte de certains paramètres. Et aujourd'hui, bon, ben moi, je ne crois pas qu'il faut qu'il y ait une seule télé, une seule presse, et la presse officielle. Donc, nous sommes dans un contexte de liberté, un contexte de la démocratie, et la démocratie veut dire qu'au choc d'idées jaillit la lumière. Donc il doit y avoir plusieurs presses, il doit y avoir plusieurs opinions qui s'expriment, et dans plusieurs chaînes de radio, dans plusieurs chaînes de télé, et moi je trouve ça normal. Mais encore une fois, je crois qu'il faut relativiser dans quel contexte le ministre a dit ça, je ne sais pas bien, donc je n'avais pas suivi à l'époque, je ne sais pas dans quel contexte il a dit. Il faut mettre les choses dans leur contexte. Et vous, dès que vous enlevez ces propos dans les contextes que le ministre a dit ça, donc je pense que ça perd sa substance. Donc je ne vais pas polémiquer avec le ministre, c'est le ministre du tutelle, je crois que je respecte son point de vue. Et si vous me demandez, attend que qu'on attend de la liberté, attend que le politique, là j'ai des choses à dire, peut-être qu'il sera différente de ce que le ministre a dit.
Voilà, Moïse Mounidela, je rappelle que vous êtes vice-ministre Information et Presse de la République démocratique du Congo. Merci d'avoir accepté notre invitation et à la prochaine.
Hein. Je vous remercie et je vous informe que je suis en train de faire des visites, et justement par rapport aux problèmes que vous êtes en train de poser, des stigmatiser. Je pense que c'est là où on peut trouver des solutions en s'informant et en visitant, en ayant toutes les informations nécessaires dans les secteurs. Je vous remercie.
Ok. Alors, je reviens à vous, monsieur Serge Bailly. Vous êtes, je rappelle que vous êtes représentant des Grecs et responsable du programme d'appui aux médias congolais. Alors, vous avez publié un ouvrage intitulé « Le coupage dans la presse, les pistes pour en sortir ». Est-ce que vous pouvez d'abord nous énumérer les pistes que vous avez lancées dans cet ouvrage? Parce que finalement, on a écouté des gens, parce que tout le monde a parlé de manière isolée, à sa manière, mais concrètement, dans cet ouvrage.
Je voudrais dire que pour moi, il y a deux pistes. La première, c'est celle sur laquelle nous avons déjà travaillé à la fois avec les responsables des entreprises de presse et les responsables des journalistes. C'est la proposition de contrat de travail. Ça a été dit plusieurs fois par plusieurs invités, mais ce que nous constatons, et cela depuis quand même un certain temps, c'est qu'il y a quand même une sérieuse résistance du côté des patrons d'entreprises de presse, à la fois au niveau de la presse écrite, un peu moins peut-être au niveau de l'audiovisuel. Monsieur Lusakueno a dit que dans son entreprise de presse, je pense, il y a des contrats de travail. Mais je crois que cette radio fait figure d'exception, ou quasiment d'exception dans le monde audiovisuel. Je crois qu'à un moment donné, il faudra passer de ce système informel à un système formel. Ou sinon, les journalistes continueront à vivre dans une précarité qui n'est bonne pour personne et surtout pas pour l'avenir de la démocratie dans ce pays. Je pense qu'on ne peut pas demander effectivement à des journalistes d'être vertueux le ventre creux. C'est impossible. Donc nous ne sommes pas en train de condamner les journalistes à travers cette action. Nous sommes en train de faire une action de sensibilisation parce que effectivement, on ne peut pas demander à des journalistes d'être demain, de faire leur travail correctement s'ils ne sont pas payés un minimum de 100 ou 150 dollars par mois, ce qui serait un minimum. Aujourd'hui, ça n'est pas le cas. Vous savez comme moi que les journalistes congolais sont payés beaucoup moins que ça. Et c'est effectivement, ceci devrait en principe changer. La deuxième piste, elle a aussi été dite, c'est le renforcement économique des entreprises de presse. Je pense que peut-être après les élections, ces entreprises de presse pourront accroître leurs moyens. Encore faudrait-il qu'elles acceptent de se regrouper. Et aujourd'hui, je pense que la principale faiblesse de la presse congolaise, c'est son émiettement. C'est-à-dire que nous avons des journaux qui travaillent chacun dans leur coin, nous avons des radios, des chaînes de télévision qui travaillent chacun dans leur coin, et personne n'a envie de regrouper ses forces. Ce qui s'est passé dans d'autres pays, que ce soit en Europe ou aux États-Unis, c'est qu'à un moment donné...
Non, mais monsieur Serge, vous avez fait ces recherches. Moi, je crois que c'est pour éclairer la religion de nos auditeurs. Est-ce que le coupage est réellement une invention congolaise?
Non, le coupage n'est évidemment pas une invention congolaise. On le trouve dans d'autres pays. Ça existe. Je ne suis pas en train de dire que toute la presse est vertueuse au-delà des frontières du Congo. Et il y a même d'autres noms dans d'autres pays d'Afrique, au Bénin, au Cameroun, etc. Ça existe clairement. Et je ne suis pas en train de dire que ça n'existe pas.
C'est un phénomène planétaire.
Mais ici, le problème, c'est érigé en système. Mm-hmm. On a érigé ce qui devrait être une exception en système. Dans tous les pays du monde, il y existe des journalistes qui acceptent des cadeaux, des frais de diffusion.
Mais ailleurs, ça se passe discrètement.
Ça se passe discrètement. Et le journaliste, ça reste exceptionnel. Ici, on a fait de ce système de coupage.
Un coupage institutionnel, un système.
On l'a institutionnalisé. Pour nous, c'est ça le problème. Et je pense qu'il faudrait effectivement que les responsables d'entreprises de presse pensent à regrouper leurs moyens.
Vous pensez qu'on peut y arriver à une échéance à court terme? Donc dans un bref délai, tout peut changer comme ça, comme nous entrons déjà en Troisième République?
Non, à court terme, rien ne peut changer. Mmh. À court terme, rien ne peut changer. Mais je dis, c'est pour ça que je l'ai dit, nous avons commencé ce travail avec les éditeurs et avec les journalistes, il y a déjà 2 ou 3 ans. Les avancées sont minimes. Donc, mais peut-être les choses vont-elles prendre une autre tournure maintenant que les élections sont derrière nous. Je crois que, à la fois, c'est un travail qui doit être fait, de sensibilisation qui doit être fait par l'OMEC, qui a commencé ce travail, et par les responsables du syndicat des journalistes.
Voilà. Alors, nous avons aussi Monsieur Stanislas Koundiye, c'est ça?
Exact.
Ok. Alors, vous êtes secrétaire général de SNPP, ça veut dire quoi, SNPP?
C'est le syndicat national des professionnels de la presse.
De la presse. Alors, vous avez sûrement à défendre les professionnels des médias et tous ceux qui travaillent dans cet environnement. Est-ce que vous avez des entrées faciles auprès de ceux-là, des décideurs ou disons des responsables des maisons de presse, à chaque fois que vous allez revendiquer les droits de professionnels des médias?
Facile, je ne le dirais pas. Je peux vous dire, par exemple, je peux vous donner un exemple. Il y a plus d'un mois qu'on a renvoyé une dizaine de confrères d'une chaîne de télévision de la place. Nous avons fait un communiqué, nous avons cherché à rencontrer les responsables de cet organe de presse. Et jusqu'à aujourd'hui, ils ne nous ont pas reçus. C'est dire qu'il y a beaucoup de chefs d'entreprise qui croient que...
Donc la loi du plus fort est toujours la meilleure.
Non, ils croient que le syndicat vient pour détruire, qu'il vient pour les déranger.
Oui. Ben alors, ils vous refusent, donc vous n'avez pas une autre instance où vous pouvez peut-être vous plaindre pour qu'une solution soit trouvée, parce que ces journalistes sont dans la rue, ils sont mal payés, ils n'ont pas de contrat, le non-respect de contrat, cela fait qu'aujourd'hui, ils soient des victimes.
Bien, nous sommes un syndicat de journalistes. Le syndicat, vous savez, il y a un rôle essentiellement de médiation. Mmh. Mais lorsque la médiation n'est plus possible, il ne reste que les cours et tribunaux, malheureusement. Et nous, nous avons toujours conseillé aux chefs d'entreprise qu'il y a un adage qui dit que mieux vaut un mauvais arrangement qu'un bon procès. Ouais. Et malheureusement, ils sont très peu nombreux à saisir la profondeur de cette sagesse et beaucoup d'entre eux préfèrent la justice.
Oui, vous avez suivi les réactions de vos confrères qui parlent de quoi de coupage, de la pratique qui ne doit pas être bannie comme ça, aussi longtemps que toutes les conditions ne sont pas réunies, donc ils ne peuvent pas lâcher le coupage. Est-ce que vous avez une réaction en particulier en tant que secrétaire général de la presse, donc du syndicat national?
Oui, nous pensons que nous, journalistes, nous devons nous dépasser. Le coupage, c'est une véritable gangrène. Et si c'est nous qui devons continuer à l'entretenir, nous sommes en train de nous tuer, sans le savoir. Je vous donne un exemple.
Mais comment en fais-tu?
Le journaliste est un travailleur. Il sait qu'il a une force de travail qu'il met à la disposition d'un employeur. Mais cette force n'est pas éternelle. Qu'il arrivera un moment donné où le journaliste doit se reposer, il doit aller en retraite. Et je vous pose la question, s'il a vécu grâce au coupage, eh bien, comment va se passer sa vieillesse? Parce qu'il n'est couvert par aucun, par rien, parce qu'il n'a pas de salaire, il n'aura donc pas de décompte final, qu'il n'aura pas de rente de survie, il n'aura rien. Alors, comment ça va se passer?
Mais non, mais c'est pas lui qui a créé la situation, comme tout le monde a dit, c'est l'environnement. Ok, donc pour d'ailleurs justifier la pratique du coupage, incrimine la crise actuelle et la désagrégation de l'État congolais après des années d'instabilité, politique et de guerre sanglante. Donc vous imaginez, aujourd'hui nous sortons de guerre et puis bon, les choses vont se passer comme sur les roulettes, facilement. Ça, ce n'est pas les journalistes qui ont créé cette situation.
Oui, tout à fait. Mais les journalistes, ne nous voilons pas la face, ils ont leur part de responsabilité. Il est vrai que dans l'existence du phénomène coupage, l'État congolais a ses responsabilités, les chefs d'entreprise aussi, mais les journalistes à sa part. Voilà. Lorsque, je vous dis, juste un mot, oui. Le journaliste aujourd'hui, comment il accepte, venant de l'IFASIC ou venant de n'importe quelle institution à la Régie du Travail, il accepte de travailler sans être couvert par le moindre document, sans contrat.
Non, mais il n'y a pas le choix. Il n'y a pas de boulot, il n'y a pas de truc. Mais s'il trouve ce qu'on lui présente là, il ne peut que sauter sur ça.
Justement, on lui présente la mort. Et comment il peut sauter sur la mort? Non, mais ce n'est pas la vie qu'on lui présente.
Non, ne fût-ce que vivre de ces coupages-là, de cette pratique, parce que ça pourrait peut-être couvrir son temps par rapport à une certaine échéance, jusqu'à ce que les choses reviennent à la normale.
Mais les choses ne reviendront pas à la normale, justement.
Alors, si les choses ne reviendront pas à la normale, c'est que la pratique ne sera pas bannie. Monsieur Serge, moi je vous dis, donc c'est que vous êtes en train de prêcher dans les déserts.
Écoutez, je ne sais pas si
on prêche... de votre ouvrage.
Je ne sais pas si on prêche dans le désert. Bon, la sensibilisation... Les gens prennent l'information ou ils ne la prennent pas. Ça n'est pas à nous à décider s'ils la prennent ou pas. Je pense effectivement que le coupage, c'est comme la corruption, ça mine les bases de la profession. Voilà. C'est ce que je pense intimement. Je pense que beaucoup de gens, de journalistes au Congo pensent la même chose. Je suis pas le seul. Je suis pas, j'ai pas sorti ça de mon cartable comme ça un beau matin en me disant le coupage, c'est une gangrène. Non. C'est à force de voir les journalistes galérer comme des, je veux dire, presque comme des esclaves. Il faut quand même prendre les mots tels qu'ils sont. Mais je voudrais revenir sur une des propositions qui a été faite par M. Lusako Eno. Et je la trouve très sage. Il a dit, nous donnons un contrat de travail et nous donnons un salaire qui n'est pas énorme, mais qui est un salaire minimum.
Et qui est à l'état maintenant.
Donc les choses ne vont pas se faire du jour au lendemain. Mais au moins, faut-il commencer par quelque chose. Le Congo ne va pas non plus changer du jour au lendemain, mais la presse peut aussi, à travers des petits gestes, montrer que ces journalistes, un jour, auront un contrat de travail avec un salaire minimum, et puis dans 5 ans ou dans 3 ans, ce salaire sera meilleur.
Alors, commencez par sensibiliser les responsables des organes de presse. Ce sont eux qui doivent être d'abord sensibilisés, les patrons des organes de presse.
Ce qui a été fait, il y a un groupe de travail qui a été réuni,
Et jusqu'ici, les responsables d'entreprises de presse ont refusé de signer la proposition de contrat de travail qui a été élaborée par 8 associations.
C'est méchant de leur part, mais on terminera par, disons, une observation que j'ai faite. L'ouvrage vient de sortir, mais quelque part, on ne sent pas la position de Grete. Mais Grete a fait que ramasser, disons, les opinions, les propos d'autres organes, notamment la HAM, l'OMEC. Qu'est-ce qui a fait que c'est là? Pourquoi vous avez pris d'autres, mais vous n'avez pas votre position à vous?
Non, il faut savoir que le Grete est ici pour appuyer les associations et les médias congolais. Donc nous sommes là pour appuyer les gens qui travaillent dans une certaine direction. Nous constatons qu'il y a un certain consensus pour essayer de mettre fin à ce processus de coupage. Nous l'appuyons. Mais c'est avant tout la décision des journalistes congolais. Le Grete n'a pas vocation à se substituer aux journalistes congolais. Nous sommes là pour les appuyer.
Voilà, le temps nous fait défaut. Serge Bailly, je rappelle que vous êtes représentant de Grete et responsable du programme d'appui aux médias congolais. Monsieur Stanislas Kondié, secrétaire général du syndicat de la presse congolaise. À vous deux, merci d'avoir accepté notre invitation. Je crois qu'on y reviendra. On n'a pas épuisé toute la matière. Certainement, on y reviendra et puis dans les jours qui viennent pour entrer encore en détail. Merci, à la prochaine. Merci.